goutte, goutte, la tête plie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, la tête plie, mes souliers aussi. Goutte, goutte, la tête plie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, la tête plie, mes souliers aussi. Goutte, goutte, la tête plie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, la tête plie, mes souliers aussi. Goutte, goutte, la tête plie, mon chapeau se mouille. Goutte, goutte, la tête plie, mes souliers aussi.
Nous sommes au Salon de l'eau et de l'énergie qui se déroule aujourd'hui sur les Halles des Expositions. Nous recevons Guy Dossan, vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement pour Évreux Porte de Normandie. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le Salon de l'eau et de l'énergie. Quels sont les enjeux pour une agglomération comme Évreux de créer, d'inviter de multiples partenaires sur un Salon de l'eau et de l'énergie ?
Alors, déjà, c'est la troisième fois qu'on fait ce salon. Les deux premières fois, c'était uniquement sur l'eau. Cette année, on a décidé effectivement de le mettre sur l'énergie, puisque le 11e programme de l'Agence de l'eau parle aussi de l'énergie et du climat.
Cette notion d'énergie, de climat, c'est intégrer l'eau dans un champ plus large que uniquement la gestion de l'eau. Elle est en interaction avec d'autres éléments. Ça change la façon d'aborder les choses, j'imagine, à l'échelle d'une aglo.
Ça change aussi au niveau des agriculteurs, puisqu'actuellement, on nous parle beaucoup de circuits courts. Donc, prenons un exemple, tout simplement les cantines des différentes écoles de l'agglomération. Circuit court, ça veut dire qu'en 2020, il faut respecter un certain nombre de lois. La loi sur le bio, sur les produits qui viennent une distance la plus courte possible, économie de carbone, etc., etc. Et donc, notre enjeu, c'est effectivement une diversification des cultures de façon à avoir du maraîcher, des légumes, chose qu'on n'a pas énormément dans l'heure.
Donc, sur ces enjeux, alors on entend l'enjeu écologique dans ce que vous nous dites, autour du bio, autour du circuit court, autour de la... Voilà, oui, mon collègue vous dit bien près de la bouche.
D'accord.
Sur la gestion des ressources aussi. Clairement, à l'échelle d'une aglo, la gestion de l'eau, c'est la gestion d'une ressource. Comment est-ce qu'on l'aborde, du coup, à l'échelle d'une aglo? Ou est-ce que d'ailleurs l'échelle c'est l'aglo, ou est-ce qu'elle est plus large d'ailleurs? Peut-être elle est plus large cette échelle.
Non, c'est l'aglo. Alors effectivement, c'est la protection de la ressource principalement. Alors protection de la ressource, je parle effectivement au niveau de tout ce qui est quand on décaptage déjà. Le problème sur les captages de l'eau. Sur Évreux, on sait qu'on a eu des soucis au niveau de Normanville. On a été obligé d'arrêter des captages. Il y a la déviation qui se construit, etc. Donc là, l'eau qu'on puise actuellement sur Arnière, sur Iton, est une eau de très bonne qualité, qui a un traitement uniquement chimique. Donc il n'y a pas de... C'est de la filtration, de la multi... Ça passe par différents petits filtres, de plus en plus petits. Il n'y a pas de produit particulier dedans. Très peu de chlore. L'eau qui sort de là est très bonne. Donc effectivement, il faut d'abord produire une eau de bonne qualité et la préserver au maximum. Alors, récupération. Alors, si on prend le cycle rapide, effectivement, l'eau, après, va dans les maisons et retourne à la station d'épuration. Et l'intérêt, c'est que notre station d'épuration, qui est effectivement très importante, très grosse, mais...
C'est celle qui est du côté de Gravigny, c'est ça ?
Celle qui est du côté de Gravigny.
Le ballon qu'on voit de la
nationale. Le ballon. Alors, ce ballon-là, c'est un ballon de méthane. Et effectivement, la méthanisation est aussi un sujet actuel, toujours pareil, pour... toujours l'énergie, faire des économies. On produit aujourd'hui l'électricité pour notre station, mais il faut qu'on en fasse encore plus.
Vous nous parliez de la captation. Je me permets de revenir au début du cycle de l'eau, qu'on comprenne tous, parce que forcément, vous maîtrisez pleinement ces questions-là, nous, beaucoup moins.
On essaye.
Nous captons de l'eau à Arnière, vous le disiez à l'instant, une eau de bonne qualité. Est-ce que c'est la seule zone de captation d'eau pour l'agglomération ?
Non, il y en a d'autres. Il y en a qui sont répartis. On en avait aussi un petit peu sur les Baux Sainte-Croix. Enfin, il y en a à différents endroits. Celle de dernière, c'est la majeure partie d'Évreux. Donc c'est la plus grosse partie. Sinon, dans le sud de l'Eure, bon, il y a différents captages. Depuis qu'on a fusionné avec d'autres syndicats, il y a effectivement d'autres captages. Une bonne douzaine.
Une douzaine de captages sur le territoire de l'EPN. Très bien. Sur l'agglomération Porte de Normandie, la gestion de l'eau est une régie directe. On sait qu'il existe plusieurs façons de gérer l'eau en régie directe, c'est-à-dire que ce sont les services de la collectivité,
les agents de la collectivité qui les gèrent.
On peut sous-traiter à des entreprises ou autres. Il y a un choix sur l'agglomération de régie directe. Quelle est sa particularité à la régie directe et pourquoi restons-nous en régie directe, par exemple ?
Pour l'instant, on fait tout pour effectivement rester en régie directe. La seule chose sur tout le cycle de l'eau qu'on a enlevé de la régie directe est la facturation.
Car la facturation, c'est un service extérieur.
C'est un facteur extérieur. C'est un métier de facturer. On n'est pas spécialement fait pour ça, donc ça, on l'a externalisé. Tout simplement aussi pour, on parle de circuit court, mais c'est beaucoup plus rapide comme ça, parce que sinon, là, nous, on était obligé de passer par la trésorerie. Enfin, c'est le système relativement complexe d'une aglo dans ces cas-là. Et là, c'est effectivement l'entreprise qui fait son relevé et qui envoie les factures.
Ça, c'est la partie facturation. Sur la partie gestion, traitement, distribution, entretien aussi des circuits.
Entretien,
parce que une particularité de l'eau, c'est que ça fuit tout le temps.
Ça fuit souvent, c'est vrai.
C'est une des particularités de l'eau, on le sait bien, ça s'échappe dès qu'il y a possibilité. Mais du coup, l'intégralité du circuit est gérée par l'agglomération.
Sur l'ancien, ce qu'on appelait l'ancien GEA, sur les 37 premières communes. Sur le reste, c'est effectivement soit en affermage, soit en délégation de service entre Veolia et Suez. Mais sur le GEA, donc sur
l'ancienne
agglomération qui représente 85 000 habitants, là, ça a toujours été une volonté de le faire en régie. Et on a, on peut le dire, on a une régie sur l'eau, sur la protection, sur les réparations, sur le suivi, qui est exemplaire.
Alors, juste avant, parce qu'on va revenir, effectivement, on l'a évoqué notamment avec une personne tout à l'heure avec qui nous échangeons, qui disait, sur l'agglomération d'Évreux, c'est plutôt exemplaire la gestion de l'eau. On va y revenir dans un instant. J'insiste lourdement sur pourquoi est-ce qu'on veut garder la main sur la gestion de l'eau. Est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a des valeurs ou il y a quelque chose derrière ça de vouloir garder la gestion directe ?
On a déjà 125 agents qui travaillent bien, donc il n'y a pas de raison de ne pas les garder et de tout casser.
Et ça fonctionne plutôt pas mal, donc ça fonctionne bien.
Tout à fait.
On parlait un instant de l'exemplarité un petit peu de la gestion justement de l'eau sur l'agglomération EPN, en tout cas qui fait référence sur la gestion de l'eau. Qu'est-ce qui fait justement les éléments d'exemplarité de l'EPN ?
Alors, il y a déjà la rapidité d'intervention, ça c'est clair. Et les travaux, et quand les gens sont sur place, ils vont jusqu'au bout des travaux. Moi, je me souviens d'il y a 2 ans et demi, une casse énorme sur Saint-Sébastien. Les agents ont travaillé jour et nuit pour que ça fonctionne. Et le lendemain, ils étaient au boulot. Donc, il y a quand même, il y a le service public qui est là. Et les gens sont conscients qu'ils sautent au service public et qu'ils sont là pour rendre service au public et faire leur travail.
La gestion de l'eau a évolué, notamment ces dernières années, avec un cahier des charges autour de l'écologie, autour de tout un tas d'éléments qui viennent s'ajouter sur la gestion. L'eau est une ressource vitale, majeure.
Qu'il faut protéger,
exactement. Comment est-ce que la façon de gérer la distribution de l'eau a évolué ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer également dans la façon d'appréhender cette ressource ?
Alors, ce qui change déjà, c'est qu'effectivement, on a toute une campagne de remplacement de canalisation, parce que les canalisations d'Évreux et d'Autour sont quand même très anciennes. Donc, pour économiser de l'eau, il ne faut pas que ça fuit. Donc, on se bat pour essayer d'améliorer notre rendement. Et ce qu'on fait surtout sur la Madeleine, par exemple, on est avec différentes sociétés pour faire de la sectorisation de compteurs.
C'est-à-dire
qu'on sur tout un secteur, on découpe avec plusieurs compteurs de façon à s'apercevoir plus exactement où on a des problèmes.
C'est des outils de détection des pertes d'eau. Ce qui permet d'agir plus précisément
sur
endroit des remplacements. Très précis.
Surtout sur, quand on voit de la Madeleine, où il y a effectivement tous les immeubles, où là, les fuites d'eau, on ne peut pas spécialement les trouver en claquant des doigts. Donc là, effectivement, en découpant, en mettant des compteurs supplémentaires un peu partout, on s'aperçoit qu'il y a un manque quelque part.
Dans la gestion de l'eau, on s'imagine toujours l'utilisation personnelle, familiale ou individuelle de l'eau. Il y a aussi les entreprises qui sont consommateurs d'énergie, consommateurs de ressources, comme tout le monde. Mmh. Est-ce qu'il y a une façon d'aborder les choses différemment quand on s'adresse à des entreprises avec des consommations différentes de celles du particulier? Est-ce qu'il y a une autre façon de gérer les institutions, les collectivités et les entreprises?
Non, pas vraiment. Je crois que les gens sont conscients que maintenant, ils doivent faire attention à l'eau et que l'eau, elle a un prix. On a beau dire que même si nous, on ne l'augmente pas, les travaux, il y a de plus en plus de travaux à faire qui coûtent de plus en plus cher. Les subventions se réduisent aussi assez rapidement.
De toutes parts, a priori. Donc, voilà. Donc là, on a parlé de la distribution, de la gestion, du fonctionnement de l'eau. Nous l'évoquions, c'est un enjeu majeur de ce 21e siècle, bien entendu, la consommation de l'eau. Est-ce qu'il y a des actions mises en place pour la réduction de la consommation ou une consommation différente de l'eau? Ou est-ce que c'est un autre service ou d'autres personnes qui le gèrent?
Non, c'est chez nous. Bon, il y a effectivement des flyers, il y a des campagnes de publicité dans les différents magazines de l'agglo ou de la ville. On parle des économies d'énergie, de faire attention. On a des stickers. Quand vous lavez les dents, fermez le robinet. Enfin, il y a un tas de choses comme ça.
Tout un tas de petits gestes,
Au quotidien, parce que les gens, c'est vrai que l'eau est chère, mais il faut l'économiser. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens, effectivement, la consommation se réduit de plus en plus.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, Guy Dossan, pour nous avoir brossé un petit peu ce tableau sur le salon de l'eau et de l'énergie. Merci beaucoup
et
à vous.
Merci à vous.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Thank you. dancing and singing in the rain.
Toujours sur le Salon de l'eau et de l'énergie qui se déroule aujourd'hui au Hall des Expositions à Évreux, nous allons parler énergie avec deux intervenants, Sylvain Tessier, donc conseiller en énergie chez BE Eco, c'est un cabinet d'études. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Jérôme Couvez, chargé de mission sur les énergies renouvelables pour Évreux, Porte de Normandie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ma toute première question, c'est comment sont abordées finalement ces questions environnementales dans la gestion des énergies, des ressources, de manière générale, à échelle d'une agglomération, et qu'est-ce qu'on peut en conclure finalement de cette gestion?
Alors, à l'échelle d'une agglomération, c'est une préoccupation de plus en plus importante et une volonté effectivement de faire partager des bons comportements et de développer des projets de production d'énergie renouvelable. Donc on va illustrer juste après avec différents exemples. En fait, l'agglomération Évreux-Porte de Normandie est en train d'élaborer un document qui s'appelle un plan climat air énergie territoriale, pour être précis, dans lequel il y a, on va dire, deux volets qui concernent l'énergie. D'une part, la consommation d'énergie, d'autre part, la production d'énergie. Et quand on parle de consommation d'énergie, on aborde ce thème du point de vue de la sobriété et du point de vue de l'efficacité. Alors on pourra revenir sur la définition de ces termes et puis illustrer. Mais voilà, donc EPN est en train d'élaborer un plan climat pour améliorer la consommation d'énergie, la réduire bien sûr, parce que quand on consomme d'énergie, eh bien on émet des gaz à effet de serre, et puis pour favoriser la production d'énergie renouvelable localement.
Alors vous, Sylvain Tessier, qui êtes conseiller dans le cadre d'un bureau d'études, vous êtes sollicité régulièrement par des collectivités, j'imagine, pour peut-être jeter un œil sur la façon de fonctionner énergétiquement parlant. Voilà, que constatez-vous et qui voyez-vous dans ces préoccupations des collectivités?
On constate une évolution depuis quelques années. Notamment porté par deux aspects, c'est-à-dire le premier aspect, c'est l'économie en termes d'euros, c'est-à-dire l'énergie coûte de plus en plus cher.
C'est un des leviers finalement.
C'est un des leviers qui amène à se préoccuper et à se dire on peut faire mieux et faire que ça coûte moins cher sur l'ensemble de la durée de vie d'un bâtiment qui peut durer plus de 50 ans. Et donc pendant 50 ans, payer des charges... comme un particulier, comme tout le monde, ça pèse forcément sur les budgets des collectivités. Donc, on va se préoccuper à essayer d'économiser l'énergie et d'utiliser des systèmes énergétiques qui vont eux aussi être plus faciles à entretenir, donc moins coûteux. Et puis, bien sûr, l'autre volet, c'est participer à la lutte contre le changement climatique, à faire sa part du travail sur économiser les énergies et donc les émissions de gaz à effet de serre.
Au niveau d'une échelle d'une aglo ou d'une ville, moi j'y vois trois niveaux un petit peu. Le niveau des collectivités, je pense aux écoles, aux collèges, aux lieux d'accueil de public qui consomment également de l'énergie. Les entreprises qui sont des consommateurs parfois importants aussi d'énergie par leur activité. Et puis il y a le particulier. Est-ce qu'à échelle d'une aglo, il y a d'autres niveaux déjà j'ai envie de dire de questionnement, et puis comment est-ce qu'on intervient au moins sur ces trois niveaux?
Alors ces trois niveaux, effectivement, on va les aborder, alors c'est un peu contradictoire, on va les aborder de façon différente et en même temps de façon un peu similaire.
Alors, vous dites tout et son contraire.
Voilà, exactement. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure de sobriété, très basiquement, pour un particulier, mais ce que nous apprenaient nos parents, on va apprendre à éteindre la lumière en sortant d'une pièce. C'est très basique, mais voilà. On va essayer d'apprendre à mieux...
Ça joue sur ça encore aujourd'hui, parce que moi j'entendais mes parents le dire, les technologies y ont avancé, on a la LED, on a des ampoules économiques, on a tout un tas de trucs. du coup, bêtement, je me dis, est-ce que ça se joue encore ici, finalement, l'énergie ?
Oui, effectivement, mais ça fonctionne, ça joue aujourd'hui avec tous les outils informatiques. Effectivement, à mieux utiliser ces outils informatiques.
Je confirme, c'est que le premier levier d'économie d'énergie, quand vous arrivez dans un bâtiment, c'est de vérifier les réglages de tous les systèmes. Voilà, c'est le plus grand levier.
Ça,
avant de commencer à isoler, de changer les fenêtres, des choses comme ça, déjà, de mieux régler tous les systèmes et donc de faire en sorte que le système qui éteint la lumière automatiquement fonctionne bien, par exemple, ou ainsi de suite. Voilà, c'est le premier levier.
Donc ces comportements, effectivement, vis-à-vis aussi des outils informatiques, hein, tous nos fameux mails, etc., il y a des façons de mieux l'utiliser pour réduire nos consommations d'énergie. Donc ça s'apprend aussi. Et puis effectivement, après...
Alors, je veux revenir deux secondes sur cette question. Excusez-moi, je vais vous couper pour être sûr de bien comprendre chacun de vos propos. C'est-à-dire, vous dites, je gère mes mails pour réduire la consommation d'énergie. Mon ordinateur, finalement, il consomme la même chose que j'envoie un mail ou que je n'envoie pas un mail ?
Eh ben non. Mais non, c'est quand je suis abonné à tout et n'importe quoi, je reçois plein de mails et ça augmente ma consommation d'énergie, voire la consommation d'énergie globale de tout le système. Donc effectivement, je n'ai pas envie de dire désabonnez-vous, mais soyez plus rationnel, effectivement. Donc là, on parle d'utilisation, mais après, effectivement, l'autre volet important, c'est l'habitat. Très clairement, quand on parle de consommation d'énergie, là pour l'instant c'est focalisé sur l'électricité, mais il y a aussi la chaleur, bien sûr après le carburant, mais sur l'habitat c'est extrêmement important puisque c'est un des gros leviers donc de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre.
Revenons du coup sur les énergies. On parlait là un instant de l'électricité. Alors ça c'est assez simple, tout le monde voit bien où sont les enjeux sur l'électricité. Sur le chauffage c'est peut-être un peu moins clair, sur les transports, sur les choses comme ça. Est-ce que du coup ça oblige à avoir une vision, finalement dès qu'il y a une consommation d'énergie, on y porte une attention. Comment ça marche ?
Oui, alors l'autre volet de l'énergie sur lequel on va se focaliser, c'est effectivement le carburant et donc nos déplacements à nous humains et les déplacements de nos marchandises. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des pratiques qui malheureusement ne sont pas très bonnes, sur lesquelles il est difficile de revenir. Par exemple, on sait qu'une très grande partie des enfants, là, ils sont emmenés donc à l'école en voiture et que souvent, ces trajets, c'est pour une distance inférieure en moyenne à 2 km en voiture. L'école est distante de moins de 2 km. Donc, il faut re-questionner ces transports, cette mobilité, parce qu'effectivement, elle est source d'émissions de gaz à effet de serre, de réchauffement climatique, etc.
Ça, Sylvain Tessier, vous, dans le cadre d'un bureau d'études, on intègre aussi ces notions de, par exemple, on va parler de l'école de Netreville, là, qui est en train de se construire, le groupe scolaire de Netreville, qui est un bâtiment à haute qualité énergétique. Mm-hmm. C'est ça, environnemental. J'imagine que ça intègre l'énergie, voilà, forcément, quand c'est haute qualité environnementale. Est-ce qu'on intègre aussi ces questions de déplacement quand on est sur un bureau d'études ? Est-ce qu'on intègre se dire, ben voilà, il y a un groupe scolaire qui va arriver, comment les gens vont y aller, comment on va organiser les transports, tout ça, et comment du coup on le gère, parce que finalement, c'est des particuliers qui vont faire ce qu'ils ont envie de faire malgré la réflexion qu'on peut avoir en bureau d'études.
C'est pas directement mon domaine, mais dans les phases de programmation, c'est-à-dire de préconception, quand le maître d'ouvrage imagine faire un groupe scolaire, il se pose ces questions-là. Alors, il se pose déjà de où il va l'implanter, donc par rapport à la population qui va mettre ses enfants dans ce groupe scolaire, et puis aussi à l'organisation très directe de ce qu'on appelle le plan d'accès à ce groupe scolaire. C'est-à-dire que vous faites plus ou moins de parking, ça guide quelque part le comportement des usagers. Vous faites une desserte très vaste, ou alors plutôt vous favorisez des abris pour les vélos, tout de suite les usagers vont s'adapter aussi. Donc cette réflexion, elle est menée à ce niveau-là.
Je me permets de pousser un peu la réflexion. C'est l'équipement qui induit l'utilisation. Enfin, ça peut avoir cet effet-là. C'est-à-dire qu'il suffirait de mettre... Je ne veux pas être dans le jugement du truc, mais il suffirait de mettre des garages à vélo couverts pour que les gens viennent en vélo. Une incidence ou pas ?
En tout cas, j'allais dire que si vous n'en mettez pas, ça ne va pas inciter à prendre le vélo.
Tout à fait.
Donc, voilà.
Non, mais oui, du coup, oui, Jérôme, c'est... vous avez l'air de dire que oui.
Oui, oui, j'acquiesce totalement, puisque en tant que cycliste déjà. Et effectivement, d'ailleurs, c'est un des axes repris par Evropointe de Normandie, c'est-à-dire aujourd'hui qui est en train de développer tout un circuit cyclable qui loue des vélos. Et donc, un cycliste, en fait, une personne va être incitée à utiliser son vélo si cette personne, elle se sent en sécurité. Si elle se sent en sécurité sur son parcours et si son bien, c'est-à-dire son vélo, lorsqu'il est stationné, il est en sécurité. C'est très important. Il y a une dimension psychologique qui est aujourd'hui est prise en compte dans les aménagements, etc. Et aujourd'hui, c'est une orientation très forte qui est prise par Evropport de Normandie. L'autre point important, effectivement, pour agir sur la mobilité, réduire l'utilisation de la voiture, ou au moins ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être seul dans sa voiture, eh bien, c'est de développer le covoiturage. Et on sait que le covoiturage, on a un tas d'applications informatiques, etc., de réseaux qui nous aident. Mais le covoiturage, il est intéressant, il est favorisé lorsque on a des stationnements où les gens sont repris en sécurité, ou quand le passager il est bien identifié, quand le conducteur il est bien identifié, pareil, de la sécurité. Alors c'est pas une phobie de la sécurité que je suis en train de développer ou une préoccupation, mais quand on est dans ces pratiques de mobilité, effectivement, c'est un axe important.
Sur ces questions-là, est-ce qu'elles sont récentes ou non ? Parce que j'entends, là, on réfléchit au déplacement pour aller à un groupement scolaire, on réfléchit à mettre des équipements quand il y a une nouvelle construction, quand il y a un nouveau fonctionnement urbain. C'est des réflexions récentes ou depuis toujours on les a et puis finalement, ça bouge un peu en fonction des innovations technologiques.
Moi, je vais répondre avec une liberté, c'est-à-dire que je participe à beaucoup de projets, je côtoie des collectivités, même des industriels, des particuliers. Ces questions-là ne sont pas forcément récentes. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus les ignorer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques années, on pouvait dire « bon, c'est pas si grave que ça, ma priorité, c'est ça ». Aujourd'hui, elles sont un peu plus prégnantes et on se pose et on va au bout de la réflexion parce que on se rend bien compte de l'impact que ça a, mais y compris sur l'usage du bâtiment, quelque part. Voilà, on parlait des cyclistes. Si vous arrivez à mettre une douche au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça change tout. Ça permet du sport, ça permet des cyclistes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus un tabou de se dire « je vais mettre une douche parce que je vais favoriser... »
C'est
personnel,
ça, le déplacement. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que si on habite par exemple à Saint-Michel, qu'on travaille à la Madeleine et qu'on y va en vélo sans assistance, par exemple, il faut une douche, sinon on ne peut pas attaquer sa journée de travail.
Oui, exactement.
Qu'on soit clair. Et ça fait partie des préconisations qui peuvent être faites, par exemple, sur des entreprises ou des structures.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des préconisations, plus de quoi recharger son vélo électrique peut-être, parce que justement, il va falloir remonter ensuite. Aujourd'hui, ça fait partie c'est à la fois dans l'air du temps et bien plus que ça. C'est un intérêt partagé.
Tout comme les constructeurs d'immeubles d'habitation, à partir d'une superficie, je crois, ont l'obligation de prévoir un local vélo interne. Aujourd'hui, c'est une obligation.
J'entends ces préconisations, notamment sur la borne de chargement, sur le lieu de travail, sur la possibilité d'une douche pour ne pas passer sa journée dans son jus de déplacement. J'entends ces préconisations. Est-ce que, par exemple, sur Évreux, il y a des endroits, des endroits équipés comme ça dans les accueils collectifs, dans les entreprises, ou est-ce qu'on est encore sur le stade de la préconisation où ça va bientôt arriver, mais ce n'est pas encore le cas ?
Alors. Ça existe. Un bon exemple, c'est l'hôtel d'agglomération. Effectivement, on a ce qu'il faut. Il y a tout l'équipement pour se doucher avant de regagner son bureau. Il y a aucun souci là-dessus. Ça existe aussi dans d'autres grandes entreprises. Après, je ne suis pas sûr que ça existe encore et que ça soit faisable sur des commerces, etc. Ce qui est plus difficile. Voilà.
Non, mais en tout cas, ça existe déjà. On n'est pas juste dans la préconisation ou dans l'idée ou dans la belle idée. On est dans du concret, clairement. C'est des équipements qu'on peut trouver déjà sur certaines structures. Je voulais revenir moi un petit peu sur un exemple très concret. Du coup, hier était la première pierre du groupe scolaire de Netreville, un bâtiment à haute qualité environnementale. J'imagine que là, les questions énergétiques ont été abordées. J'imagine qu'il y a des choses qui sont proposées ou qui sont en cours ou pas. Comment on aborde un bâtiment comme ça qui va recevoir voilà, une école, un groupe scolaire, des maternelles, des primaires? J'imagine qu'il va bien y avoir 400 enfants ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Je ne connais pas la capacité précise, mais on doit être dans ces environs-là aujourd'hui sur un grand groupe scolaire qui est construit.
Oui, ça a été... C'est un équipement important, c'est un groupe scolaire, c'est pas qu'une école, donc ça regroupe plusieurs équipements. Nous, on assiste le maître d'ouvrage sur cette recherche de la performance énergétique et environnementale. Le maître d'ouvrage a fait une réflexion assez simple. Hein. Avant de poser le premier coup de crayon pour dire je vais faire ce groupe scolaire, il a analysé combien lui coûtait l'exploitation de ces bâtiments et il s'est dit comment je peux améliorer la facture. Donc j'en reviens à l'euro qui est un déclencheur parmi d'autres pour aller vers plus d'énergétique, d'environnement. Et donc, il a décidé de faire concevoir et réaliser un bâtiment très, très performant, qu'on appelle un bâtiment passif.
C'est quoi un bâtiment passif, pour être très précis ?
Un bâtiment passif, c'est un bâtiment qui va consommer très peu d'énergie. Il va en consommer un peu, mais très peu. Comment il y arrive ? Il est très bien isolé et il a des baies vitrées bien orientées pour capter la chaleur du soleil. Il y a du soleil partout, il a une puissance phénoménale pour nous chauffer. Si on le fait rentrer dans le bâtiment, on n'a plus besoin de chauffer. Si on fait un bâtiment très bien isolé, la chaleur dégagée par tout un chacun dans le bâtiment, et chacun de nous, là en ce moment, on dégage de la chaleur, elle va rester dans le bâtiment. Donc elle va permettre de le chauffer aussi. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui réfléchit comme ça, de manière assez simple, à comment on va garder, capter de la chaleur et la garder pour se chauffer. Et puis, il va aller au-delà et il va dire, maintenant qu'on a gardé la chaleur, comment je fais pour que les gens se sentent bien ? C'est-à-dire qu'il y a une bonne ventilation, que quand l'été arrive, bah, il n'est pas trop chaud, et ainsi de suite. Voilà. Et on fait un bâtiment qui, tout au long de l'année, va avoir très peu de besoins énergétiques pour apporter le confort aux usagers. Voilà. C'est bien la relation entre l'énergie et le confort qui fait la réussite d'un bâtiment passif.
Comment vous l'abordez au niveau de l'agglo ? Là, on est donc Sylvain Tessier nous parlait en tant que cabinet d'études avec des préconisations, des propositions. Comment est-ce que à l'agglo
Alors les collectivités, elles agissent dans un cadre. Ce cadre, il est donné bien sûr par la loi nationale, mais souvent par ce qu'on appelle des grands schémas régionaux. Je prononcerai pas le terme puisqu'il est un peu barbare, mais qui nous donne des objectifs, notamment que en 2050, tous nos bâtiments publics répondent à des normes très élevées vis-à-vis de l'isolation, etc., de la consommation d'énergie. Faudrait en faire des bâtiments basse consommation. Donc on agit dans ce cadre qui nous fixe des orientations très fortes, même si c'est à des horizons très lointains, 2050. Après, effectivement, les collectivités, comme tout particulier, il y a la raison financière qui intervient. Donc réduire la consommation d'énergie, c'est réduire aussi la facture. C'est pour ça. Et puis, c'est apporter du bien-être, comme ça vient d'être dit. Je rajouterai un troisième point sur le bien-être. Il y a aussi la qualité de l'air intérieur qui maintenant devient une forte préoccupation. On parlait de qualité d'air extérieur. On a un exemple dernièrement dans l'actualité. Mais il y a aussi la qualité de l'air intérieur et on a de plus en plus de réglementations et d'exigences vis-à-vis de ça que l'on doit nous promouvoir, nous collectivités.
Quand on parle de qualité de l'air intérieur, on parle de quoi ? De ce qu'a constitué le mobilier, les revêtements de sol, de murs, les isolants, enfin le choix des matériaux qui tout au long de leur vie de matériaux vont dégager je sais pas quoi d'ailleurs, des particules, des choses, je sais pas, là pour le coup c'est vous qui êtes les spécialistes, j'imagine que ça dégage des choses. Et c'est à ça qu'on parle quand on parle de qualité de l'air, ou on parle de la qualité de l'air extérieur qui se bloque à l'intérieur, comment ça se passe ?
On parle de tout ça. C'est-à-dire que des études démontrent que l'air intérieur dans les bâtiments est parfois plus pollué que l'air extérieur.
Ça, c'est dû à quoi, par exemple ?
C'est dû à des mauvaises ventilations et donc à des matériaux qui continuent d'émettre des particules qu'on appelle COV ou formaldéhyde. Voilà. Bon, c'est des polluants qu'on a utilisés pour fabriquer ces matériaux, qu'on a mis dans la colle. Si vous avez déjà posé ou mis de la peinture, certaines peintures sentent, certaines colles pour poser un parquet sentent aussi. Et
C'est voilà. Bien qu'il y a des choses qui s'évaporent dans l'air.
Il y a des choses qui s'évaporent et qui peuvent s'évaporer très, très, très longtemps durant le bâtiment, alors qu'on a mis des enfants typiquement dans la classe. Donc on fait le choix de matériaux ou de colles moins polluantes. Et puis, on est très vigilant sur la ventilation, la qualité de la ventilation. Mais on ne veut pas consommer trop d'énergie. Donc, on fait le choix de ventilation qu'on appelle double flux, en tout cas de... Voilà.
C'est l'équilibre entre la toujours. Qualité de l'air et ce qu'on fait rentrer de l'extérieur qu'il va falloir réchauffer au bout d'un moment. Quoi.
C'est ce que je disais, entre l'équilibre entre l'énergie et le confort. Le confort, la qualité de l'air fait partie du confort. C'est l'équilibre savant qu'il faut atteindre.
Jérôme Couvez.
On parle de qualité de l'air dans les bâtiments, mais il y a aussi une préoccupation de la qualité de l'air dans l'habitacle de nos véhicules. Puisque aujourd'hui, maintenant, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'un automobiliste, un conducteur, est plus exposé à la pollution des véhicules qui l'environnent, qui sont autour de lui, qu'un piéton qui passerait à côté de tous ces véhicules.
C'est inquiétant ce que vous nous dites au vu du temps que certains passent dans leurs véhicules.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a aussi des moyens d'action là-dessus ou est-ce que c'est juste un constat qu'on fait et puis on verra un autre jour si on trouve une solution?
Non, je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire pour des trajets relativement courts, de l'incitation à la pratique du vélo ou bien au covoiturage, à la voiture partagée, etc.
C'est-à-dire que, et vous m'arrêtez quand je dis des bêtises, dans la façon d'aborder la chose, et vous le soulignez, énergie, confort, énergie, qualité de vie, c'est intimement lié finalement, cette notion d'énergie et de qualité de vie.
Il y a un volet santé qui est sous-jacent, qui est dans toutes les thématiques qu'on peut aborder vis-à-vis de l'environnement. Il y a la santé des habitants, de tout le monde.
Ah, oui. Sylvain Tessier.
Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant dans l'évolution des pratiques, c'est que on ne reste pas focalisé sur un aspect énergétique, parce que c'est la réglementation, donc j'économise l'énergie ou le confort. Voilà. On essaie de réunir tout ça et c'est ce qui nous motive tous. C'est ce qui nous fait, à mon avis, tous comprendre et accepter que les efforts sont bénéfiques pour nous, voilà, en premier lieu.
Quelle est la place l'innovation technologique dans tout ça? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas penser énergie, on ne peut pas penser qualité de vie sans penser aux innovations technologiques, non?
Je vous arrête. Un bâtiment passif, c'est un bâtiment bien isolé. Celui de notre ville est construit en bois avec un isolant en paille.
Oui, alors c'est pas une chaumière non plus, hein, qu'on non, se le dise. Il y a une réflexion autour de la paille, je me permets.
On peut le faire en béton, on peut le faire en ce qu'on veut. On peut faire un bâtiment passif sans... beaucoup d'innovation technologique. L'innovation sera dans la ventilation, le système qui est un peu performant, mais globalement, c'est plutôt de... Voilà, sans innovation, c'est juste passer le temps de la réflexion et de faire les choses assez finement pour que cette isolation soit bien faite. Voilà. Mais isoler un bâtiment, ça ne demande pas une innovation folle.
Sur les consommations électriques, tout de même. Enfin, j'imagine, quand on parle consommation électrique, on voit aujourd'hui, par exemple, je pense là au niveau particulier, l'électroménager aujourd'hui est 10 fois moins gourmand en énergie qu'il y a une dizaine d'années, par exemple. Mmh. C'est lié, j'imagine, quand même à l'innovation technologique, à des recherches dans ce sens-là, quand même.
Oui, tout à fait. Mais elle est déjà là. On peut déjà bénéficier de cette innovation. Ça va continuer à s'améliorer. L'éclairage, les LED font leur apparition et remplacent les incandescences. Voilà. Mais je veux dire, elle est là. On n'a pas besoin d'en attendre une nouvelle pour déjà faire des efforts et des gains importants.
Tout comme pour les vélos électriques. Auparavant, les batteries étaient au plomb. Maintenant, elles sont au lithium. Les vélos à hydrogène apparaissent. Donc, effectivement, il y a une évolution technologique.
Et qui favorise, bien entendu, peut-être le confort d'ailleurs, plus que, à la limite, la consommation directement, mais peut-être plus le confort. Au niveau des particuliers, pour terminer, au niveau des particuliers, parce qu'on a beaucoup parlé collectivités de manière générale et gestion, au niveau des particuliers, comment entreprendre finalement la réduction de consommation d'énergie, vu qu'elle se passe derrière la porte du privé finalement, cette consommation énergétique? Parce que sur la collectivité, ça paraît assez simple, la collectivité a la main sur la gestion de la collectivité, donc l'action est assez simple. Enfin, c'est simple, pardon, pas simple, mais en tout cas assez directe. Sur le particulier, l'histoire, consommateur, c'est que c'est difficile d'entrer sur la consommation, j'ai envie de dire, derrière la porte du privé, quoi.
Mm-hmm. Alors, oui, oui, mais ça reste, c'est, malgré tout, je parlais du plan climat qui est en train de développer Évreport de Normandie, c'est un axe important, la sensibilisation. Ce plan climat, il a été construit avec différents partenaires, notamment des représentants d'associations de locataires, des associations qui militent effectivement pour l'environnement, etc. Et ça a été un axe très important. Alors cette sensibilisation, elle se fait déjà dans le milieu scolaire et elle existe déjà dans plein de domaines, dans la préservation de la ressource en eau, mais aussi dans le tri des déchets. Elle se fera vis-à-vis de la consommation d'énergie. Et puis elle se fait aussi dans le milieu, économique, où bien il y a des chambres consulaires, notamment la chambre de commerce et d'industrie, qui a déjà un rôle de conseiller vis-à-vis des employés, vis-à-vis des chefs d'entreprise, etc. Donc cette sensibilisation, il y a déjà des actions en place et qui vont se développer, qui vont s'accentuer. Et donc il n'y a pas que les collectivités, il y a dans le milieu scolaire, à différentes occasions, dans des festivals, dans des salons comme aujourd'hui, etc.
Très bien. Oui, vous souhaitiez ajouter quelque chose, Sylvain Tessier ?
Oui, j'ajouterais pour les particuliers, ils sont bien sûr informés par tous les moyens dont disposent. Le plus dur pour le particulier, c'est d'arriver à faire les bons choix parmi toutes les sollicitations qu'il peut recevoir, y compris son fournisseur d'énergie qui lui propose sans cesse de l'aider à faire des économies. Voilà, et donc il existe ce qu'on appelle des espaces info-énergie qui permettent de guider le particulier en toute indépendance. Voilà. Une fois que nous, particuliers, on a l'information et qu'on a compris vers quoi il fallait tendre, après c'est assez, assez facile de faire le job.
Et justement, on a un espace info-énergie sur Évreux sur lequel on est très bien accueilli. Il suffit juste de les solliciter pour avoir des réponses à ses préoccupations en tant que particulier. Moi, je me permets parce que j'ai eu l'occasion de les solliciter. Et on est très bien accueilli par cet espace info-énergie. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme Couvès. Vous êtes chargé de mission énergie renouvelable à Évreux, porte de Normandie, à l'agglomération. Et merci à vous, Sylvain Tessier, consultant sur BE Eco. C'est un cabinet d'études sur les questions énergétiques notamment.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. le ruisselet au large s'en est allé.
Toujours sur le salon de l'eau et de l'énergie, nous allons parler ressources en eau avec Régis Chopin, qui est secrétaire général de la Chambre de l'agriculture, Didier Penquin, directeur régional de BRGM, c'est de l'étude géologique de l'eau, étude géologique de l'eau et des risques naturels, ainsi que nous avons en plateau Marion Roussille du service du grand cycle de l'eau. Nous y reviendrons dans un instant. Bonjour à vous. En s'installant autour de la table, c'était Régis Chopin qui nous parlait, qui échangeait avec Didier Penquin sur la question de l'eau et disait l'eau gentille et l'eau méchante. C'était Didier Penquin qui en parlait. Forcément, ça m'interpelle. Qu'est-ce que l'eau gentille et l'eau méchante ? Vous aviez l'air de vous entendre avec la Chambre de l'agriculture sur cette question d'eau gentille et d'eau méchante. Si vous pouviez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'eau gentille et l'eau méchante.
Oui, en fait, par ces termes, on entend surtout l'eau qui nous est utile dans un premier temps, c'est-à-dire pour tout ce qui est alimentation en eau potable, pour tout ce qui est effectivement faire sa toilette, en fait, tous nos besoins, va dire, journaliers à chacun. Et puis l'eau méchante, bon, c'est une image, c'est effectivement les crues qu'on redoute tant et qu'on craint. Voilà, donc c'est un petit peu ça derrière ces deux termes dont on discutait. Voilà.
Voilà, l'eau subie notamment liée aux risques naturels ou les risques liés à l'aménagement, j'imagine, des territoires. Sur cette question d'eau, nous avons Régis Chopin, secrétaire général de la Chambre de l'agriculture et également agriculteur sur le territoire d'Évreux, Portes de Normandie. J'imagine que ces questions de ressources en eau, d'utilisation d'eau, d'interaction entre l'utilisation et puis les captages, j'imagine que dans l'agriculture, ce sont des questions essentielles et notamment sur l'utilisation et la ressource en eau, non ?
Bien sûr, nous les agriculteurs, nous sommes, je veux dire, en veille technique sur ce sujet de l'eau potable, notamment des ressources en eau potable du territoire, et évidemment qu'on y est très attentif et qu'on essaie, au travers de nos pratiques agricoles, d'être les plus vigilants et les plus précis possibles pour préserver la qualité de la ressource en eau.
Alors, il y a la qualité de l'eau que vous utilisez à travers les exploitations agricoles, mais il y a aussi, j'imagine, la question de, une fois que l'eau a servi à l'exploitation agricole, c'est la question des nappes phréatiques et des infiltrations qui se posent aussi, non ? Enfin, il y a double niveau, j'imagine, dans le questionnement de l'eau.
C'est un double flux, hein, donc c'est un ensemble. La qualité de l'eau compte, bien sûr, pour les besoins vitaux humain, mais aussi pour l'eau distribuée en élevage, évidemment. Et puis, chaque agriculteur se sent concerné par les pollutions ponctuelles de ses corps de ferme, de ses pratiques agricoles, mais aussi par les pollutions diffuses liées aux pratiques qui sont généralisées sur ce grand territoire qui est EPN.
Je me permets, il y a aussi la question, j'imagine, quand on parle du cycle de l'eau, et peut-être on définira aussi dans un petit instant ce qu'on entend par le grand cycle de l'eau, il y a la question aussi des apports phytosanitaires dans les exploitations agricoles également, non ? Ça fait partie des questions qui sont régulièrement mises sur le devant de la scène à travers les législations, notamment on entend régulièrement parler à travers les législations européennes ou à travers les questions de qualité d'eau.
Bien sûr. Je veux dire, sur une exploitation agricole, on a des intrants qui sont épandus. Les premiers, ce sont les engrais, font le lien avec le dossier nitrate. Les nitrates sont toujours, très observés dans la qualité de l'eau, l'eau distribuée. Et puis, le deuxième intrant important reste les produits phytosanitaires. Et là aussi, les agriculteurs sont attentifs, non seulement, aux analyses d'eau qui sont délivrées 3 ou 4 fois par an sur chaque forage, mais attentifs aussi à leurs pratiques, attentifs aux attentes sociétales en matière de qualité de l'eau. Et donc, l'agriculteur aujourd'hui ne pratique plus, ne travaille plus en méconnaissant ou en écartant d'un revers de main toutes ces problématiques. Et aujourd'hui, l'agriculteur est plus que concerné, comme les industriels, comme les artisans, comme la société civile, par l'assainissement. Au même titre que tous ces acteurs-là, l'agriculture est concernée au premier chef.
Quand on parle, Marion Roussy, du service du grand cycle de l'eau, quand on parle de grand cycle de l'eau, c'est de ça dont on parle ?
Oui, tout à fait. Donc le grand cycle de l'eau, pour le définir, en fait, c'est tout ce qui est le cycle de l'eau avant d'être capté par le captage d'eau potable qui ensuite est distribué à la population humaine. Donc ça, ça devient le petit cycle de l'eau, eau qui est ensuite utilisée par les administrés, qui devient ensuite de l'eau usée, qui est ensuite traitée dans des stations d'épuration avant d'être rejetée dans la rivière qui redevient du grand cycle de l'eau. Voilà.
Didier Penquin, justement, alors vous êtes un bureau, enfin vous êtes directeur régional du bureau d'études BRGM.
Ce n'est pas un bureau d'études, c'est un établissement public de recherche.
De recherche.
Qui a une mission, notamment, d'appui aux politiques publiques. Voilà.
Justement, ces questions, et vous disiez, vous travaillez sur l'étude de la géologie, l'eau et les risques naturels. La géologie, finalement, on est en plein dans ce dont nous venons de parler, avec ces systèmes d'infiltration, de nappes phréatiques et compagnie, ou je me trompe peut-être quand on parle de géologie ?
Non, mais en fait, quand on parle de grand cycle de l'eau, la géologie a toute sa place, hein, parce que c'est le support, en fait, pour l'eau. Hein. L'eau s'évapore des mers, forme des nuages, les nuages se précipitent et puis ça s'infiltre dans la terre, dans les couches géologiques, dans les rivières, ça ruisselle. Et donc effectivement, la géologie est partie prenante. D'ailleurs, il y a une science qui s'occupe de l'eau, justement, et du transfert de l'eau souterraine en particulier, qui s'appelle l'hydrogéologie.
Voilà. Alors cette géologie, elle est purifiante dans certaines fois, mais parfois c'est justement là où elle capte éventuellement les polluants ou ce qui vient altérer la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un double effet, soit de filtration, parce que c'est le cycle naturel, c'est comme ça qu'on me l'avait appris à l'école, c'est le cycle naturel de filtration, ou au contraire d'accumulation, non ?
Oui, alors la géologie joue un rôle, effectivement, enfin les couches géologiques jouent un rôle effectivement filtrant pour beaucoup de choses, beaucoup de polluants, mais les polluants ne sont pas tous aussi mobiles les uns que les autres. On parlait des nitrates tout à l'heure, les nitrates c'est un des polluants les plus mobiles, donc effectivement qu'on retrouve, qui est fortement utilisé déjà, et qu'on retrouve facilement dans les captages d'eau potable. Ce n'est pas les polluants les plus toxiques.
Mais c'est ceux les plus évidents peut-être, c'est ça ? Ceux qui sont révélateurs peut-être ?
C'est très évident parce qu'ils bougent quasiment à la vitesse de l'eau. Contrairement à beaucoup de pesticides qui bougent beaucoup plus lentement et qu'on retrouve certains pesticides interdits depuis plus de 20-25 ans, comme l'atrazine, on en retrouve toujours. Et sans que les niveaux baissent à certains endroits. Donc effectivement, chaque polluant a une manière de fonctionner qui est propre à lui et qui dépend également de la géologie.
Et sans que les agriculteurs ne l'emploient.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que justement Didier Penquin.
C'est interdit depuis 20 ans, 25 ans.
C'est ça, mais ça continue à se retrouver dans l'eau.
C'est les stocks qui migrent petit à petit de la zone non saturée vers la zone saturée, puis dans l'eau.
On a par exemple des regards sur certains polluants, on va dire, enfin j'utilise peut-être un mauvais terme générique et rectifier si le faut, mais certains polluants ou certains éléments qui entachent la qualité de l'eau qu'on n'utilise plus, mais sur lesquels il y aura des années et des années encore ce besoin de, je sais pas, nettoyage de la géologie. Il y en a beaucoup.
Il y a plein de. Allez, on va pas ne parler que de l'agriculture. Il y a aussi l'industrie.
Tout à fait.
Avec beaucoup de polluants. Il y a énormément aujourd'hui en Normandie dans les nappes souterraines en particulier. On a des gros problèmes avec ce qu'on appelle les organohalogénés volatiles, le tétrachlorotylène, le trichlorotylène, etc. En état évreux, il y a effectivement ce type de problème de pollution ancienne qu'on retrouve toujours dans les eaux, mais c'est vrai dans quasiment toutes les vallées de Normandie. Hein. Il y en a, on parlait du Sage-Caillou-Bête-Robec, il y en a là aussi, il y en a du côté du,
Voilà. Et c'est des choses dont on se débarrassera prochainement, un jour. Il y a des techniques pour s'en débarrasser ou finalement, faut attendre que ça passe et ça peut prendre, des décennies, des siècles, je suis novice en la matière. Hein. Est-ce qu'on est inquiet ou pas ?
Alors, on est inquiet. Il y a une vigilance. Hein. Les organismes d'État veillent effectivement sur la bonne qualité de l'eau au niveau de l'eau potable, à la fois au niveau de l'eau brute qui est utilisée pour l'eau potable et puis derrière, effectivement. Donc, là, il n'y a pas de souci, je veux dire, en temps normal, concernant ces polluants. Et simplement, il faut être vigilant. Alors, ils partent naturellement, pour certains, ce qu'on appelle l'atténuation naturelle. Et puis, pour d'autres, il faut dépolluer. Là, il y a des techniques qui font, par exemple, les anciens sites industriels qui polluent beaucoup font l'objet souvent d'une dépollution qui est en cours et qui peut durer un certain temps.
On a notamment sur Évreux les exemples de l'ancien hôpital, par exemple, avec ce qui est, j'ai envie de dire, pollution médicamenteuse éventuellement, ou les usines de Navarre qui sont une question qui dure depuis un petit moment, mais sur lequel la question de la pollution par absorption, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas par absorption, est évidente.
Oui, alors les pollutions, effectivement, c'est un phénomène assez complexe. Hein. On peut avoir différents phénomènes qui ont... Effectivement, l'absorption, effectivement, c'est les polluants qui s'absorbent, par exemple, sur la partie, les éléments carbone qui sont dissous dans l'eau et qui migrent avec ces différents éléments. Donc ça, c'est effectivement une possibilité. Mais bon, il y a différents procédés qui font que derrière, il y a effectivement des procédés naturels qui permettent certains de ces polluants soit de partir, des éléments volatiles, par exemple, qui partent sous forme gazeuse, d'autres qui, effectivement, réagissent chimiquement et se désagrègent. Oui, voilà. Très bien. Et puis, les autres, par contre, qui sont beaucoup plus réfractaires et qu'il faut éliminer par des processus, de type dépollution, qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être des petites bêtes qui viennent, des bactéries qui viennent manger, effectivement, qui désagrègent en quelque sorte ces molécules. Ça peut être aussi un problème de ventilation, ce qu'on appelle le venting, pour pouvoir effectivement faire évaporer un certain nombre de ces composés volatiles, etc. Bon, il y a différentes méthodes. Voilà, donc à la fois la nature et l'homme pour détruire ces polluants qui risquent encore, par contre, de nous ennuyer pendant un petit temps.
Alors on a parlé polluants, effectivement, en début d'échange, mais c'est la question de la gestion de la ressource ou de la protection des ressources en eau se limite pas à ces questions de pollution. Comment sont abordées les questions de protection de la ressource en eau en fonction des préoccupations des uns et des autres? Comment concrètement sont mises en place des actions, des choses, je sais pas, sur ces questions de protection de la ressource en eau? Parce qu'il n'y a pas que la question pollution, bien entendu.
Alors, sur l'agglomération d'Évreux-Port de Normandie, on a des captages qui sont dits prioritaires au titre du Grenelle de l'environnement, sur lequel on doit mettre une action de protection de la ressource en eau préventive liée à la dégradation de l'eau, notamment en nitrate, principalement. Alors aujourd'hui, je rassure, on n'est pas au-dessus des normes en nitrate, mais on voit une tendance à la hausse en fait de la concentration qui atteint des valeurs seuil. Il y a plusieurs valeurs seuil fixées notamment par l'Agence de l'eau pour déterminer si le captage est prioritaire en termes de pollution.
Qu'est-ce qui augmente ce niveau de nitrate? Alors là, je ne sais pas, la question est très ouverte. J'ai aucune idée de savoir qui pourrait apporter des éléments, mais vous évoquiez le fait que les niveaux de nitrate augmentent. On arrive à des limites de seuil. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive à ces niveaux?
Alors, en fait, la principale responsable, c'est quand même l'agriculture, qui a utilisé énormément d'azote au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Ces stocks d'azote, en fait, restent... il faut dire que les nitrates restent aussi... sont confinés, en fait, dans les espaces dans la zone insaturée de l'aquifère. Qui fait que finalement il y a un gros stock qui reste. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit la pluviométrie augmenter et la ressource en eau, le niveau de la nappe d'eau augmenter, on voit également le taux de nitrate monter. Et lorsque le taux de, enfin, le niveau de la nappe baisse, on voit également une petite baisse de nitrate. Mais globalement, si on voit des chroniques qualité de certains captages pour les plus anciennes, on voit globalement, même s'il y a des oscillations en fonction évidemment des hauteurs d'eau, on voit globalement une tendance à la hausse. Maintenant, voilà, c'est une action qu'on mène sur Évreux-Port de Normandie, sur les bassins d'alimentation de captage, avec toutes des animations en fait, qui sont à destination du monde agricole, pour justement les aider, essayer de leur donner des outils, des conseils, pour justement essayer d'avoir le moins de nitrate qui est lessivé vers la nappe.
Régis Chopin, je vois que vous êtes emparé du micro donc pour la Chambre de l'Agriculture. Vous souhaitiez réagir à cette question autour de comment se fait-il que nous retrouvions des seuils de nitrate relativement importants, voire en limite de seuil?
Alors, pour l'agriculture, je le disais tout à l'heure, les agriculteurs essaient d'être précis dans leurs apports. Pour l'agriculteur, en amont d'une récolte, il apporte une dose d'azote sur sa culture sans en connaître le rendement définitif. D'accord ?
C'est le rendement définitif de la culture.
Il vient
forcément,
qu'après.
Bah oui, forcément, vient qu'après.
Au moment de la récolte.
Du coup, il y a un dosage d'azote qui se fait par estimation, c'est ça ?
Alors,
excusez-moi, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez.
Autrefois,
c'était comme ça.
Il y a 40 ans, il se faisait par estimation, donc il apportait une dose. Quel que soit le rendement, bon ou mauvais. Et automatiquement, si on était avec un mauvais rendement, il y avait trop d'azote apporté. Et donc cet azote, dès l'effet chasse d'eau, le premier effet chasse d'eau, cet azote migrait par infiltration et allait vers les aquifères. Aujourd'hui, les agriculteurs raisonnent cet apport d'azote sur leur culture, notamment avec un calcul qu'on appelle la méthode des bilans. En fait, on fait le bilan. On sait qu'aujourd'hui, produire un quintal de blé nécessite 3 unités d'azote, 3 kilos d'azote par quintal. Donc, s'il évalue le rendement toujours prévisionnel de sa culture, il sait combien il faut apporter. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a donc cette méthode des bilans. On a des outils d'aide à la décision numérisés qui nous permettent, d'être encore plus fins que cette méthode des bilans et, en cours de végétation, de faire l'appoint s'il manque. Par contre, une fois que c'est apporté, on ne peut pas le retirer, bien sûr. Et donc, voilà, on essaie d'être au plus fin dans nos pratiques pour pouvoir, éviter une pollution gratuite qui serait gratuite, coûteuse pour l'agriculteur, évidemment, mais d'éviter les excès de pollution. J'ai parlé d'effets chasse d'eau. Ces effets chasse d'eau, ils ont lieu à deux époques de l'année. À l'automne, lorsque la céréale, par exemple, a été récoltée, la terre elle-même minéralise. Elle produit de l'azote naturellement, qui s'ajoute à l'azote non consommé par la récolte qu'on a levé. Et donc, on a déjà une fabrication d'azote pendant l'automne, et dès que les pluies automnales et de début d'hiver vont arriver, on a un effet chasse d'eau. Ensuite, le deuxième effet, c'est lorsque les nappes se sont remplies. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des hivers de plus en plus secs. Lorsque la nappe est pleine, lorsque la nappe est remplie, en début de printemps, l'agriculteur commence ses apports dès la fin du mois de février et au début du mois de mars. On commence les apports, et là, lorsque le sol n'est pas ressuyé, on risque un deuxième effet chasse d'eau, une deuxième migration d'azote vers les nappes. Voilà. Il y a deux moments clés dans l'année auxquels l'agriculteur doit être attentif et doit adapter ses méthodes de travail.
Sur la question, alors je vais peut-être peut-être plus m'adresser à un spécialiste de la géologie, parce que là, on est clairement dans ce qu'on appelle la géologie ou
l'hydrogéologie.
L'hydrogéologie, très clairement. Ce sont des choses sur lesquelles, là, pour le coup, je m'adresse à tout le monde autour de la table, sur lesquelles il y a des accompagnants, parce que là, on entend Régis Chopin qui nous parle à échelle de l'agriculteur, mais est-ce que du coup, il y a un accompagnement à échelle régionale, comme par exemple avec la Chambre de l'agriculture, ou est-ce qu'avec le PN, il y a un accompagnement, ou est-ce que les spécialistes qui se posent ces questions-là accompagnent aussi les agriculteurs, mais pas seulement, hein, pour le coup. Hein. Comment se passe finalement l'accompagnement ou une politique peut-être globale d'apport sur les cultures ?
Alors,
Marion Roussy.
Sur l'animation agricole, en partenariat avec le département de l'Eure, on réalise des campagnes de reliquats azotés, donc, qui permettent notamment de savoir ce qu'il y a en fait, de nitrate d'azote dans le sol en entrée et en sortie d'hiver, ce qui permet du coup d'estimer en fait, la part qui est lessivée vers la nappe d'eau, et également pour l'agriculteur du coup, d'ajuster en fait, ensuite sa fertilisation. Donc ça, c'est une action qu'on mène avec, en partenariat avec le département et bien entendu l'Agence de l'eau. Et également, après, il y a toutes différentes expérimentations qui sont menées, notamment des essais en interculture courte. En fait, on met un couvert végétal au moment où, évidemment, on est dans une période de lessivage des nitrates, ce qui permet du coup à l'azote d'être plutôt fixé par les plantes plutôt que d'être chassé par la pluie si le sol est nu. Voilà.
Alors face aux spécialistes, je vais sûrement poser une question très bête, mais c'est pas grave, j'imagine que d'autres apprendront aussi. Quand on parle d'azote, on parle de nitrate, et est-ce que c'est la seule cause, est-ce que c'est le seul élément de mouvement de la qualité de l'eau ?
Bien sûr que non. Et en fait, c'est certainement pas l'élément le plus toxique non plus. Il y a effectivement, comme je disais tout à l'heure, toutes les pollutions industrielles. Les pesticides sont souvent plus toxiques aussi pour la santé, pour l'environnement, mais également pour la santé humaine. Toutes les pollutions industrielles, beaucoup de ces composants. Vous avez entendu parler de l'affaire Lubrizol, j'imagine. Ça, c'est quelque chose qui nous occupe à Rouen énormément là actuellement. On parlait beaucoup de HAP, on parlait de dioxine, on parlait beaucoup d'autres choses. Donc non, il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement affecter la qualité de l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, et c'est un petit peu le travail donc, des services de l'État, mais également de tout un chacun, enfin, tous ceux qui sont en charge de produire de l'eau potable, que ce soit en régie, au niveau des collectivités ou au niveau des fermiers. Voilà.
Marion Roussy.
Donc effectivement, les pesticides, c'est également une problématique que l'on regarde. Depuis maintenant 4 ou 5 ans, on fait un suivi analytique plus précis sur les captages qui sont prioritaires, avec toujours le département financé par l'Agence de l'eau, et avec un menu d'analyse très complet sur notamment les phytosanitaires. Et donc on voit apparaître en fait de plus en plus, lorsqu'on cherche en fait, on trouve les molécules, même à des seuils très bas, voire juste le seuil de détection. Mais ça prouve quand même en fait qu'il y a une énorme vulnérabilité de la ressource en eau, qui est donc, on l'a pas dit, mais c'est la nappe de la craie. C'est une ressource en eau très vulnérable, malheureusement, car elle n'a pas de protection superficielle au-dessus, comme des argiles, qui pourraient totalement colmater et la comment dire, la rendre imperméable par rapport aux pollutions anthropiques. Donc on a également les molécules qui dépassent un petit peu le seuil de détection, qui sont les plus fortes. C'est par exemple l'atrazine et ces molécules dérivées comme le déséthylatrazine. Donc c'est des molécules qui ne sont plus utilisées par l'agriculture, voilà, aujourd'hui. Mais on les retrouve encore dans l'eau, ce qui montre voilà, une vraie vulnérabilité, une vraie rémanence de ces produits phytosanitaires.
C'est ce que nous expliquait justement Didier Penquin. Vous venez d'évoquer il y a quelques instants la question Lubrizol, hein, très clairement, qui a été un accident industriel qui s'est passé il y a quelques semaines. La question est justement par rapport à tout ce que vous nous dites depuis le début sur les temps, sur sur le temps sur lequel déjà ça va passer d'une couche à l'autre, ou ça va s'infiltrer dans l'eau, ou ça va s'éliminer. J'imagine que c'est quasiment impossible de pour un exemple comme Lubrizol, très concrètement, d'avoir des réponses aujourd'hui sur les incidences.
Alors c'est un problème très très compliqué. En fait, parce que bon, effectivement, Marion a parlé effectivement de l'aquifère principal qui en fait, on va dire, couvre à la fois l'Eure et la Seine-Maritime, qui est la Crée. La Crée, c'est un aquifère extrêmement particulier, qui a des propriétés à la fois d'un aquifère classique de type poreux.
Un aquifère en quelques mots, parce que je ne suis pas un spécialiste, vraiment, aidez-moi.
Alors, un aquifère, c'est en fait une couche géologique qui transfère l'eau, hein, voilà, pour être très simple. Et la plupart de ces aquifères, on les visualise comme des éponges, en quelque sorte, par lesquelles bah, l'eau peut couler, hein, sous l'effet de pression. Mais la Crée est un peu différente, parce qu'elle a également ce qu'on appelle des composantes karstiques, c'est-à-dire vraiment des galeries souterraines, en quelque sorte. Hein, c'est l'eau qui a dissous cette Crée et qui a creusé des galeries souterraines par lesquelles l'eau transite très très vite.
Donc on est face à un double problème, et vous me corrigez, donc, j'essaie de comprendre. Hein, c'est pour ça que
on est face à un double problème.
Il y a une accumulation et en même temps un passage direct.
Il y a à la fois les deux. Hein, et donc effectivement, quand on a une pollution accidentelle de type de ce qu'on vient de voir avec Lubrizol, donc des suies qui sont retombées sur cette Crée, on a ce qu'on appelle aussi en surface, même si on a des argiles à silex qui couvrent comme une bonne partie de la Crée, on a aussi ce qu'on appelle des bétoires qui arrivent jusqu'à la surface. Et les bétoires en Normandie, ben, c'est connu dans l'Eure, comme c'est connu en Seine-Maritime, c'est en fait des espèces d'entonnoirs qui aspirent un petit peu tout ce qui ruisselle en surface et qui vont directement les porter vers les chenaux karstiques. Et donc cette pollution peut être entraînée donc, par les ruissellements vers ces bétoires et ensuite vers les karsts, qui les amène très rapidement vers les captages d'eau potable. Donc c'est un processus rapide. Et là-dessus se greffe également un processus beaucoup plus lent, avec des infiltrations beaucoup plus lentes, mais qui viendront, qu'on verra, beaucoup plus tard. Donc on a cette double, voire triple vitesse des choses en Normandie qui compliquent pas mal le problème. Donc pour répondre à votre question, c'est extrêmement compliqué. Ceci dit, il y a aujourd'hui donc une mobilisation un peu générale de services de l'État, de l'Agence de l'eau, du BRGM, bien sûr de la préfecture, il y a des analyses journalières qui sont faites à certains endroits justement pour essayer de voir un petit peu capter ces passages, parce que en un sens cette pollution c'est un peu un traceur naturel, enfin un traceur malheureusement mais qui est à disposition et qu'on essaie justement d'exploiter pour essayer de mettre en évidence ces différents phénomènes et ces différents mécanismes.
À l'issue de ces échanges-là, j'ai la sensation qu'une fois que finalement soit les produits ont été intégrés à la terre, soit quand l'accident ou la pollution industrielle est arrivée, finalement, j'ai la sensation, en vous entendant, que finalement il n'y a plus qu'à observer ce qui se passe et finalement subir ce qui s'est passé, ou finalement on a quand même des moyens d'action aussi bien sur les questions de nitrate que sur les questions de pollution industrielle, que sur les accidents industriels ou autres. Est-ce qu'il y a des moyens d'action, ou finalement, une fois que ça s'est passé, il nous suffit d'observer? Enfin, c'est un peu cru hein, de le dire comme
oui,
ça, mais...
C'est pas simple non plus de répondre. Il y a des moyens de réagir. Alors, quand c'est un accident comme ça, ben, ce qu'il faut faire, c'est déjà observer pour savoir quand on coupe le robinet pour ne plus alimenter en eau potable, par exemple. Donc ça, c'est déjà une action très, très, très concrète. Si on voit effectivement que les polluants dépassent les seuils, l'ARS demande effectivement, c'est elle qui gère un petit peu tout ça, fait couper les robinets et puis ben, on trouve l'eau ailleurs. Après, sur le plus long terme, effectivement, il y a des actions, il y a des techniques de dépollution qui permettent de dépolluer les sols pollués. Et c'est ce qui va se passer sans doute sur des sols comme Lubrizol. Enfin, c'est ce qui devrait se passer. Mais une fois que les urgences sont toutes réglées.
C'est-à-dire qu'il y a quand même des moyens d'action au traitement, à l'assainissement des sols, et voire en cas d'extrême, de couper le robinet pour épargner quand même la diffusion.
Oui, des moyens techniques, il y en a, simplement, ils sont coûteux. Hein. Il faut savoir que c'est retirer une pollution, et plus on attend, plus le coût augmente, hein, de manière exponentielle.
Pour terminer, parce que je trouve qu'on a quand même beaucoup parlé d'agriculture sur les questions de qualité de l'eau, on a parlé quand même de la partie industrielle. Il y a une action, une je sais pas, une une action ou une façon d'aborder les choses au niveau de la Chambre de l'agriculture sur ces questions de l'eau, une espèce de politique agricole ou de Chambre de l'agriculture? Comment ça se passe?
Alors, la Chambre d'agriculture est un organisme consulaire, comme les autres chambres, hein, métiers, industrie, artisanat. Elle a aussi une vocation de conseil. Donc, pour la Chambre d'agriculture de l'Eure, on a environ 18 groupes d'agriculteurs qui sont suivis par un conseiller, un technicien. Et donc, voilà. À ce conseil permanent s'ajoute ce que Marion a cité tout à l'heure, une animation agricole sur les bassins d'alimentation de captage prioritaires. Donc, il y a une animation agricole qui peut venir s'ajouter, pour mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses, une autre rotation des cultures sur l'exploitation. Voilà, il y a un suivi. Mais ce qu'il faut dire avant tout tout ce thème de la préservation de la ressource en eau, c'est que en agriculture, les changements prennent du temps. D'abord, il faut, que les agriculteurs ne soient pas sourds aux débats, aux attentes sociétales, à la réalité. Hein, je rappelais tout à l'heure que tous les forages d'eau du département fournissent une eau qui est analysée. Périodiquement, elle est analysée. Et ça, aujourd'hui, tout consommateur d'eau dans le département, qu'il soit particulier, entrepreneur, industriel, reçoit ces analyses d'eau. Donc tout le monde est bien conscient des pollutions de cette eau potable. Et les agriculteurs sont conscients qu'ils doivent, évoluer vers des pratiques plus vertueuses. Mais tout ça prend du temps. Il faut de la formation. Il faut de la diffusion de l'information. Il faut, du conseil. Tout ça prend du temps. Monsieur Penquin, comme Marion, le savent. Et pour l'agriculteur, lorsqu'il s'agit de contraintes nouvelles, c'est source de charges. Il faut qu'il y ait aussi des accompagnements financiers, et bien évidemment.
Ils existent ?
Partiellement.
Partiellement.
Partiellement. La Chambre d'agriculture n'a pas vocation à aider financièrement, la mise en œuvre de nouvelles pratiques. Elle réfléchit, elle fait un diagnostic, elle réfléchit, elle aide à imaginer les solutions, mais financièrement, et souvent, l'agriculture pâtit de ça. Lubrizol, dossier très lourd dont on vient de parler aujourd'hui, vous avez entendu les producteurs de lait de Seine-Maritime s'exclamer presque au scandale d'avoir jeté des millions de litres de lait dans l'égout, dans le réseau assainissement, alors que, il n'y avait pas de danger. Et vu le bilan livré par l'ANSES ces derniers jours, il n'y avait quasiment pas de danger. Donc voilà, et les agriculteurs seront, j'espère, indemnisés à la hauteur du préjudice. Mais pour que les agriculteurs puissent se mettre en ordre de marche, soient beaucoup plus éveillés à ces problèmes de qualité, il leur faut également un accompagnement. Vous allez me dire, les agriculteurs ont toujours demandé de l'argent. C'est vrai, souvent, souvent. Mais il faut les accompagner. Et Marion le sait très bien, puisque elle-même, chapeautant tous les services de l'animation agricole sur les bassins d'alimentation de captage, elle sait très bien que les choses évoluent certainement pas assez rapidement. Mais il y a une inertie dans le milieu agricole à laquelle s'ajoute l'inertie des pollutions dont on a parlé tout à l'heure. Juste pour finir, pour ma part, on a parlé des nitrates. Aujourd'hui, ce sujet nitrate, il est passé pour moi en second plan. Le sujet des phytosanitaires, j'aime pas le mot pesticide, Marion le sait, mais le sujet phytosanitaire a pris le devant de la scène. Lubrizol, on en parle beaucoup, mais dans quelques temps, on en parlera beaucoup moins. Mais les phytosanitaires sont vraiment sur le devant de la scène. Et ce sujet-là est bien plus important que les nitrates. Les nitrates ne causent pas la mort, ne causent pas de maladie, sauf chez le nourrisson. Oui, oui. Les nitrates, c'est vraiment un deuxième plan. Et aujourd'hui, focaliser sur les nitrates ne sert à rien. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur les produits de protection des plantes, les phytosanitaires.
Je suis d'accord avec, tout à fait d'accord avec M. Chopin sur l'aspect des produits phytosanitaires effectivement plus dangereux que les nitrates. Il y a un troisième enjeu dont il faut que l'agriculture se saisisse. Enjeu et non pas contrainte, c'est le changement climatique. Ça fera l'objet peut-être d'autres débats.
Très bien. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, sinon...
Non, simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les nitrates, on en parle beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup des grosses quantités, mais ce n'est pas ce qui est plus toxique. Hein. C'est ce que j'ai déjà dit au moins deux fois ici à ce micro. Et par contre, les phytosanitaires, effectivement, c'est le challenge de la mise en œuvre de la directive cadre aussi, hein, puisqu'effectivement, c'est sur l'eau. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Sur ce point-là, on est absolument tout à fait d'accord.
Très bien. Et puis, ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir que finalement, tout le monde se parle et qu'à partir du moment où tout le monde se parle, c'est qu'il y a de l'interaction entre les compétences des uns des autres, des intérêts des uns des autres. Et finalement, c'est le début pour trouver une solution ou en tout cas travailler sur le long terme quand les interlocuteurs se parlent déjà.
Voilà. Je pense que c'est l'affaire de tous, en fait. La qualité de l'eau, c'est l'affaire de tous parce que les agriculteurs ont besoin de vivre, les industriels ont besoin de travailler et pareil. De tout, c'est qu'on sait maintenant des choses qu'on ne savait pas avant et qu'on va vers des pratiques, petit à petit, vers des pratiques plus vertueuses. Ça se voit, même si parfois des concentrations évoluent encore à certains endroits. De toute façon, Marion l'avait dit, effectivement, il y a des stocks de polluants liés aux activités passées qui sont là et qui s'épandent, qui vont encore se relarguer dans les eaux pendant un petit moment. Mais bon, on va quand même vers du mieux.
Très bien, merci beaucoup à vous Didier Penquin, directeur régional BRGM, qui spécialiste de l'étude géologique de l'eau et des risques naturels. Merci beaucoup à vous Régis Chopin, secrétaire général de la Chambre de l'agriculture et agriculteur également sur le territoire de Évreux-Porte de Normandie. Et merci également à vous Marion Roussy du service Grand Cycle de l'eau. Et c'est important d'ajouter le grand à cycle de l'eau. Merci beaucoup de votre présence à tous les trois.